Lorsqu'on dit XXe siècle, on pense d'abord à la grande civilisation qu'est la nôtre, aux découvertes scientifiques qui dépassent aujourd'hui l'imagination la plus fertile, à la somme de connaissances amassées dans nos bibliothèques et dans de nombreux cerveaux. Pourtant, il faut constater que notre XXe siècle n'est pas en bonne santé. Il souffre de déséquilibre. Il s'est hypertrophié matériellement et atrophié spirituellement. Aujourd'hui, de grands sociologues se penchent sur notre civilisation comme sur un grand malade hypernerveux et sont obligés de reconnaître ce que nous représentons tous plus ou moins précisément, à savoir qu'aller vite ne veut pas nécessairement dire aller bien. Et notre monde ne va pas bien. Disons tout de suite que cette carence spirituelle au profit du matérialisme n'est pas la caractéristique exclusive de notre siècle. Déjà, au premier siècle de notre ère, un grand philosophe chrétien du nom de Paul eut l'occasion de prononcer un réquisitoire cinglant contre la folie d'un monde qui se croit sage et intelligent. Il lance un défi aux sages de son temps et de tous les temps, à l'homme cultivé et au raisonneur d'ici-bas qui croit tout savoir sans connaître Dieu. Il engage son discours en rappelant un texte prophétique de l'Écriture où Dieu dit « J'anéantirai la sagesse des sages et je détruirai l'intelligence des intelligents ». Voici quelques extraits de ce réquisitoire tel qu'il nous est rapporté dans la première lettre aux Corinthiens. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. En vérité, ce texte est apte à tempérer l'orgueil de l'homme devant sa science. Il y a ici un conflit violent entre la sagesse ou le raisonnement humain et la sagesse qui vient de Dieu. Lorsqu'on évoque ce heurt entre la pensée de l'homme et la volonté du Créateur, on ne peut s'empêcher d'évoquer l'expérience de l'apôtre Paul dans la ville d'Athènes. On pouvait rencontrer à Athènes l'élite de la pensée contemporaine de Paul, la crème de l'intellectualisme grec. Il est dit des Athéniens qu'ils ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Et comme Paul s'entretenait chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait, il eut au fait de s'attirer un auditoire de philosophes divers, avides de savoir ce qu'il avait à dire. Le livre des Actes semble faire surtout mention des épicuriens et des stoïciens. Ces sectes philosophiques avaient des idées bien arrêtées, quoique contradictoires, sur le sens de la vie et de la mort. Le discours que leur fit l'apôtre Paul nous est rapporté dans le chapitre 17 du livre des Actes. L'entrée en matière est un chef-d'œuvre de diplomatie. La tâche est dure. Il s'agit d'introduire dans ces esprits idolâtres la notion d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, un Dieu qui n'a pas été façonné par des mains humaines, avec de l'or ou de la pierre, un Dieu qui n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, un Dieu qui jugera le monde par son Christ qu'il a ressuscité d'entre les morts. Mais il ne pourra pas aller plus loin. Tandis qu'il parle de résurrection, l'auditoire l'interrompt brusquement par des moqueries et des sarcasmes, puis le laissera seul sur la place, à l'exception cependant de quelques-uns qui furent gagnés par sa prédication courageuse. Paul venait de parler à des gens cultivés, qui ont préféré se détourner de lui dédaigneusement. Du haut de leur intelligence, ils avaient l'impression que ce petit discoureur leur avait fait perdre leur temps avec ses élucubrations de rêveurs. Les choses ont-elles changé? Les hommes sont-ils devenus plus logiques? On se le demande gravement. Apparemment, nous ne manquons pas de savoir. Nous avons accumulé dans nos librairies et nos musées une somme de connaissances qui éclipse presque totalement les quelques lumières du monde ancien. Et pourtant, nous avons commis la folie d'exiler Dieu de notre civilisation, de notre société, de notre famille, de notre vie. Les conséquences sont inévitables. Jamais on n'a enregistré autant de suicides qu'à notre époque. Et paradoxalement, ce mal atteint surtout les peuples les plus évolués, les plus civilisés. Nos asiles n'ont plus de place. La délinquance juvénile prend des proportions alarmantes. Avec la dégradation des mœurs, les crimes et les délits de toutes sortes, les hommes fabriquent, chacun de son côté, un armement d'apocalypse, soi-disant pour préserver la paix. Autant de symptômes alarmants qui précèdent la ruine. Devant cette vision de notre monde moderne, qui est loin d'être exagérée, le réquisitoire de l'apôtre Paul, prononcé il y a presque 2000 ans, est toujours vivant. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? L'homme moderne s'est créé une place confortable dans ce monde, matériellement parlant. On dirait qu'il a l'intention de s'y fixer définitivement. Cependant, cet homme-là est un inquiet. Sans Dieu, sa vie n'a plus ni direction ni signification. Les compagnies d'assurance sont bien placées pour témoigner de ce sentiment d'inquiétude et d'incertitude qui pousse les hommes à s'assurer sur tout. Mais à quoi servent les assurances contre toutes les incertitudes de la vie, lorsque demeure l'inexorable certitude de la mort? La sagesse de Dieu nous invite à nous approcher de celui qui est sorti victorieux de la mort, Jésus-Christ, hors de qui nous ne savons ni ce qu'est notre vie, ni ce qu'est notre mort. Loin de nous l'idée de minimiser la valeur des connaissances humaines. Elles sont indispensables, mais néanmoins limitées dans leur pouvoir de satisfaire toutes les aspirations de l'homme. La science, ou sagesse humaine, n'est basée que sur l'expérience. Cette expérience est faite de réussites et d'échecs, presque exclusivement dans le domaine matériel. Mais qu'a-t-on fait du domaine de l'esprit? Que peuvent les connaissances, la philosophie et la politique des hommes devant le chagrin d'une mère qui pleure son enfant? Que peuvent les connaissances, la philosophie et la politique des hommes devant la détresse d'un homme que ronge l'angoisse ou que tourmente le remords? Que peuvent les connaissances, la philosophie et la politique des hommes pour nous guérir de la peur des fléaux qui nous menacent? Absolument rien. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, c'est folie que de ne croire qu'en cette sagesse-là, car elle est semblable à l'horloge qui veut indiquer ses propres heures sans se soucier de la position du soleil. Jacques dira vigoureusement et sans embâge que cette sagesse-là est terrestre, charnelle et diabolique. Les Écritures nous encouragent, nous invitent à nous confier avec notre science humaine en celui qui a fabriqué l'horloge de l'univers, en celui qui gouverne dans la tempête, celui qui a limité l'ambition de la mer, celui qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » L'homme cultivé qu'était l'apôtre Paul écrit par expérience lorsqu'il recommande de ne pas s'inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu. Et, ajoute-t-il, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On raconte qu'un concours fut ouvert au peintre appelé à présenter sur la toile l'image de la quiétude. Deux tableaux furent remarqués et le jury hésita un court instant pour octroyer le premier prix. L'un représentait un paysage d'automne doré et calme, respirant la douceur et la tranquillité. L'autre était une effroyable bourrasque, arrachant tout sur son passage. Mais, caché sous les branches d'un arbre, un petit oiseau chantait. Ce fut lui qui emporta la palme.